local. Histoire locale, la vie quotidienne et les événements dans le Tarn au cours des siècles passés. Bonjour à toutes et à tous. C'est aujourd'hui notre rendez-vous mensuel avec Stéphanie Corso et Aude Michaud, qui sont médiatrices culturelles au sein du service éducatif des archives départementales du Tarn. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Bonjour Aude.
Bonjour.
En cette année 2014, la commémoration du début de la Première Guerre mondiale, vous avez choisi d'aborder différents thèmes dans les émissions précédentes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler lesquels ?
Alors nous avons en effet évoqué tout au long de l'année écoulée la correspondance d'un poilu, le rôle des femmes durant la guerre, les questions liées au ravitaillement et aujourd'hui donc nous souhaitons porter notre attention sur les enfants. Grâce aux archives de l'enseignement, nous allons voir comment la guerre était d'une certaine manière enseignée aux enfants, comment malgré leur jeune âge ils ont eux aussi été intégrés à l'effort de guerre et voir enfin comment l'image de l'enfant a pu être instrumentalisée.
C'est un thème qui est rarement abordé.
En tout cas, il est tardivement.
Un thème très intéressant que nous allons découvrir.
Pour concevoir cette émission, en complément des archives publiques, nous nous sommes aussi appuyés sur des documents confiés par des particuliers. Ces documents sont issus de la grande collecte qui se déroule actuellement dans les services d'archives. Les particuliers sont encouragés à déposer, donner ou tout simplement prêter leurs archives privées portant sur la Première Guerre mondiale pour qu'elles puissent être numérisées ou conservées dans nos services. Profitons donc de l'occasion pour remercier ces particuliers qui nous donnent ainsi accès à des témoignages plus intimes, comme celui de Jeanne Floquet, enfant de 13 ans, réfugiée à Vabre, dont nous allons vous lire la rédaction aujourd'hui. Mais avant d'aborder ce texte, intéressons-nous à ce courrier, rédigé par l'instituteur de l'ACABARED à l'occasion d'une demande de renouvellement de bourse scolaire le 1er septembre 1915. Comme beaucoup d'autres, par petites bribes, il laisse apparaître la désorganisation sociale et familiale causée par la guerre.
Monsieur le Préfet, ma fille Rose Curval, élève à l'école primaire supérieure des jeunes filles d'Albi, ayant été reçue au brevet élémentaire mais non à l'école normale, se dispose à faire une troisième année. Les circonstances m'obligent encore une fois à venir solliciter de votre haute bienveillance, Monsieur le Préfet, une augmentation de sa bourse d'internat. La cherté des vivres qui augmente chaque jour et les dépenses d'équipement nécessitées par les deux blessures de mon fils militaire au 15e rendent impossible l'équilibre de mon modeste budget. C'est pourquoi j'espère que, vu mon état nécessiteux et mes 33 ans de service dans l'enseignement, Monsieur le Préfet voudra bien accueillir favorablement ma demande. J'ai l'honneur d'être, Monsieur le Préfet, votre très humble serviteur, l'instituteur Curval.
Faute d'argent ou parce que l'on a besoin d'eux pour travailler au champ, des enfants devront interrompre leur scolarité. Les parents, y compris les pères, partis sur le front, ne peuvent que les déplorer. Ainsi cette carte, adressée par Jean-Jules Favarel à son fils Léon, le 23 février 1917.
« Je n'ai plus grand-chose à te dire, cher petit Léon. Je n'ai pas besoin de te dire d'être toujours aussi bien sage, et je te souhaite de ne jamais faire le métier que l'on fait, surtout à notre âge. J'ai toujours le regret que les circonstances se soient opposées à ce que tu continues d'aller à l'école. »
Évidemment, les difficultés rencontrées par les enfants armés sont bien loin de celles des enfants exposés aux tirs ennemis. Un article de l'Illustration daté du 29 janvier 1916, intitulé « Les enfants et les masques » et consacré aux écoliers de Reims, dresse un portrait héroïque de ces enfants à l'image des soldats combattant sur le front.
Les enfants de Reims, qui sont héroïques comme nos soldats et comme eux exposés au péril de la première ligne de feu, portent comme eux aussi des masques contre les gaz asphyxiants, car les Allemands ne cessent de bombarder la ville à martyrs, et chaque semaine tombent sur la cathédrale ou dans les rues des obus chargés de gaz ou d'explosifs. Cette menace perpétuelle n'empêche pas les petits Rémois de fréquenter assidûment les classes souterraines qui furent aménagées dans les caves. Ils ajoutent simplement à leur équipement d'écolier, aux cartables remplis de livres et de cahiers, et aux petits paquets de leur goûter, un sachet qui contient les lunettes et la pochette des compresses remplies de l'antidote contre les gaz asphyxiants. Par prudence, ils mettent leurs lunettes autour de leur front dès qu'ils quittent la maison paternelle, afin d'être immédiatement protégés contre la surprise mortelle de l'obus inattendu. Et ils font sérieusement l'exercice de la pose de masque comme les soldats dans les tranchées. Les écoliers de Reims savent qu'il n'y a pas de mardi gras pendant la guerre. Ils ajoutent ce souvenir à ceux qui resteront éternellement gravés dans leur esprit. Ils ont été attentifs aux explications que leur donna la directrice de l'école primaire et aux démonstrations faites devant eux par les professeurs et les institutrices. Pendant les récréations, à l'entrée et à la sortie des classes, les plus grands ont donné comme des répétitions supplémentaires aux plus petits. Et maintenant, chaque écolier arrive à ajuster son masque en 30 ou 35 secondes.
Ces enfants de Reims nous paraissent bien éloignés du Tarn, et pourtant, dès les débuts de la guerre, les populations civiles fuient les zones de combat. À ces réfugiés volontaires s'ajoutent les évacués des communes des lignes de front, qui sont en premier lieu les femmes et les enfants. Le Tarn a accueilli nombre d'entre eux, ce qui n'est pas sans poser de problème. Ainsi, l'inspecteur d'académie du Tarn, le 25 juillet 1918, sollicite le préfet du Tarn pour obtenir la création d'un emploi d'adjointe à l'école maternelle de Lavaur, qu'il justifie par le fait
« L'effectif atteignait jusqu'ici à peine 60 élèves. Il n'était pas exagéré pour une seule maîtresse. Mais l'afflux des évacués à Lavaur a donné un contingent d'élèves nouveaux d'une vingtaine d'enfants, qui a élevé le chiffre total des élèves à 80. »
Dès 1915, c'est l'accueil des enfants réfugiés belges qui préoccupe le préfet.
Albi, le 24 octobre 1915. Le préfet du Tarn à Monsieur le ministre de l'Intérieur et de l'Instruction publique. Le vice-consul de Belgique, résident à Mazamet, et le père Corti, moine capucin, autorisé par le gouvernement belge à remplir les fonctions d'aumônier dans le département du Tarn, en vue de faciliter à ceux de ses compatriotes qui ne parlent pas le français l'accomplissement de leurs devoirs religieux, m'ont entretenu l'un et l'autre séparément d'un projet qui aurait, paraît-il, reçu l'assentiment du gouvernement belge, tendant à créer dans la ville d'Albi une école avec internat destinée à recevoir les enfants belges d'âge scolaire, séparés de leurs parents, qui pourraient être dirigés sur Albi par le gouvernement belge, et où seraient également reçus à titre d'externe les enfants belges déjà réfugiés à Albi avec leurs parents et dont le nombre n'excède pas actuellement une trentaine. Je ne lui ai pas caché que, sauf dérogation concertée entre les deux gouvernements en raison des événements de la guerre, la création dont il s'agit me paraissait en opposition avec la loi de 1881, qui impose la nécessité de la qualité de français pour toute personne demandant à ouvrir une école, et la loi de 1904, qui a supprimé l'enseignement congréganiste en France.
La décision du gouvernement français parvient au préfet du Tarn par un télégramme officiel daté du 21 février 1916.
Intérieur à préfet France et Algérie et gouverneur général Alger. Circulaire. Gouvernement autorise pendant durée des hostilités gouvernement belge à ouvrir en France école laïque et congréganiste aux conditions suivantes. Écoles recevront exclusivement enfants belges. Les aumôniers congréganistes se borneront exclusivement à service aumônerie et s'abstiendront de toute prédication ou mission hors école. Ces aumôniers et les maîtres devront être de nationalité belge. Vous priez me signaler urgence école belge déjà établie et celle en voie création, en indiquant si elles ont produit autorisation ministre Sciences et Arts de Belgique, donnant assentiment à leur fonctionnement.
Une école belge a bien été ouverte à Albi durant la Grande Guerre, comme en témoigne ce rapport de l'inspecteur d'Académie du Tarn, adressé le 30 mars 1916 au préfet du Tarn.
J'ai l'honneur de vous adresser les renseignements que vous m'avez demandés sur l'école belge installée à l'orphelinat Saint-Jean, rond-point Saint-Martin à Albi. L'école reçoit 58 enfants, 22 garçons et 36 fillettes, dont 20 internes appartenant à des familles belges dispersées dans le département. Le personnel comprend 7 religieuses de l'ordre des Annonciades qui avaient un établissement à Bitschot. Elles sont toutes de nationalité belge. L'aumônier de l'école est le père Corti, belge également. Il est chargé de l'instruction religieuse des enfants et de la haute direction de l'école. Il n'existe pas d'autres écoles belges dans le département et il n'est pas question d'en ouvrir. Celle d'Albi est destinée à recueillir comme interne les enfants belges que les familles réfugiées veulent bien leur confier. 30 au maximum peuvent être admis en cette qualité. Les enfants ne seront gardés que jusqu'à 13 ou 14 ans au plus.
Si l'initiative paraît louable, les circonstances dans lesquelles certains enfants ont été amenés vers cette école peuvent laisser perplexes quand on se réfère en particulier à ce rapport dressé par le commissaire de police de Grouillet le 17 décembre 1915.
À Monsieur le sous-préfet de Lavaur, objet, renseignement au sujet des agissements de Monsieur Corti, père capucin de Bruges, Belgique. Ce moine habite actuellement Albi et parcourt souvent la contrée pour visiter les réfugiés belges. Ces derniers temps, il cherche les fillettes belges de 9 à 13 ans pour les amener à Albi, à une école fondée, paraît-il, tout récemment pour les enfants belges. Le 15 décembre dernier, vers 14 ou 15 heures, il se rendit chez M. Gaffier, conseiller municipal de Groyer, et demanda qu'on lui donnât la jeune Thévelin Augusta, âgée de 11 ans, que les époux Gaffier avaient recueillie lors de l'arrivée des Belges à Groyer, le 13 décembre 1914. En l'absence de son mari, Madame Gaffier ne voulut pas donner la fillette et invita le père Cortier à revenir. Vers 19 heures ce même jour, le 15 décembre, le père Cortier revint chez M. Gaffier et dit à ce dernier « Je viens prendre la jeune Thévelin pour l'amener à l'école d'Albi. » M. Gaffier refusa de donner l'enfant en faisant observer qu'il ne s'en déferait que lorsque ses parents auraient consenti à la laisser prendre. M. Cortier répliqua « Je suis le maître des enfants belges. J'ai reçu des instructions du roi et des ministres belges et je les exécute. Si vous ne me donnez pas la fillette, je ferai entrer les gendarmes que j'ai laissés devant la porte. » Le père Cortier, en disant cela, saisit M. Gaffier au bras. Cette discussion dura près d'une heure. Finalement, et sur l'invitation plusieurs fois réitérée de M. Gaffier, M. Cortier partit sans prendre la fillette.
Comment ces enfants ont-ils vécu cette période de troubles marquée par le manque de sécurité affective et matérielle et de forte instabilité? La rédaction, rédigée par Eugène Floquet, jeune réfugié de 13 ans et scolarisé à Vabres, nous raconte, avec ses yeux d'enfant, son périple de Trieux, commune de Meurthe-et-Moselle, jusqu'à Vabres dans le Tarn.
Alors, nous allons découvrir tout de suite après une pause musicale ce que Eugène Floquet a rédigé. Nous écoutons Charles Aznavour.
Les enfants de la guerre ne sont pas des enfants, ils ont l'âge des pierres, du fer et du sang. Sur des larmes de mer, ils ont ouvert les yeux, par des cours sans mystère, et sur un monde en feu. Les enfants de la guerre ne sont pas des enfants, ils ont connu la terre à feu et à sang. Ils ont eu des chimères pour aiguiser leurs dents et pris des cimetières pour des jardins d'enfants. Ces enfants de leur âge et des jours incertains qui avaient le visage creusé par la faim ont vieilli avant l'âge et grandi sans secours, sans toucher l'héritage que doit léguer l'amour. Les enfants de la guerre ne sont pas des enfants, ils ont vu la colère étouffer leur chant, ont appris à se taire et à serrer les poings. Quand les voix mensongères leur dictaient leur destin, les enfants de la guerre ne sont pas des enfants, avec leur mine fière et leurs yeux trop grands, ils ont vu la misère recourir leurs élans, et les mains étrangères égorger leurs printemps. Ces enfants, sans enfance, sans jeunesse et sans joie, qui tremblaient sans défense, de peur et de froid, qui les fièrent et tes erreurs et moi, mes diverses espérances sont comme toi et moi, des amants de misère, de malheureux amants, aux amours singulières, aux rêves changeants, qui cherchent la lumière, mais la craignent pourtant, car les amants de la guerre sont restés des enfants.
Vous êtes bien sur Radio Albigès, dans cette émission Histoire locale. Aude Michaud et Stéphanie Corso nous parlent aujourd'hui des enfants dans la Grande Guerre. Et nous allons tout de suite retrouver ce que Eugène Floquet, un jeune réfugié de 13 ans, a écrit pendant cette période-là.
Nous habitions Trieux, localité de 12 000 habitants à 10 km au nord de Briey. Depuis 9 mois et demi déjà, les Allemands exerçaient leur barbarie et de jour en jour devenaient plus méchants. Quand un ordre arriva d'évacuer vers la France toutes les bouches inutiles. Nous sommes partis vers 4h du matin, le 12 mai, et avons gagné en voiture à Briey. Lors de notre arrivée, d'autres convois, venant des villages voisins, nous avaient précédés, mais d'autres étaient encore en chemin. Il nous fallut les attendre. Pendant l'attente, un lieutenant Bosch fit masser les évacués par village, puis chacun dut passer devant un contrôle, pour se placer au quai d'embarquement. Nous avions 500 mètres à faire pour y arriver, et nous étions surchargés de paquets. Heureusement, quelques personnes demandèrent de l'aide et obtinrent qu'on nous envoyât quelques soldats. Bien que Trieux fût arrivé un des premiers, il ne fut contrôlé que le dernier, si bien que 8h sonnaient quand tout le monde fut sur le quai d'embarquement. Un lieutenant apporta l'ordre de mettre au fourgon les plus gros paquets et de ne garder avec soi que le nécessaire pendant le voyage. Provisions, linge pour les bébés. Enfin, vers 8h15, le cri « En voiture !» retentit. Après quelques minutes de brouhaha, nous nous trouvâmes installés dans un compartiment de troisième classe, en compagnie d'un voyageur de la Croix-Rouge, qui nous montra, pendant le voyage, qu'il avait des sentiments dignes d'un Bosch, mais déclara que malgré leur succès, les Allemands voyaient tomber beaucoup de camarades. Enfin, vers 8h30, le train s'ébranla et remonta vers le nord, jusque vers Audun. Ce premier trajet fut marqué par les adieux émouvants qu'on nous fit, surtout à Trieux et Sancy, et le train s'arrêta longuement à Audun-le-Roman, que les Allemands nous laissèrent voir sans honte. Pauvre village si coquet, encore il y a 10 mois, et qui n'est plus aujourd'hui qu'un amas de décombres noircis par la fumée. Le convoi quitta Audun pour se rendre sur Fontoy. La ligne, qui était unique, est doublée depuis la guerre d'une voie de campagne. C'est alors qu'un train de blessés nous dépassa, et que plusieurs de ces victimes de la guerre, des Français sans doute, nous firent des adieux touchants. Après quelques minutes de stationnement, le train s'ébranla de nouveau pour Metz cette fois. En chemin, je pus voir les grands centres de métallurgie, mais jamais je n'oublierai les braves Lorrains qui nous donnèrent des œufs et de la boisson en nous disant bien bas « Vive la France !» J'ai retenu le nom de leur village, c'est Richemont. À partir de ce village, le train suivit une quadruple voie et après un trajet rapide arriva à Metz. Je pensais alors que moi, Français, j'étais au cœur d'une forteresse allemande, et que je reviendrai que quand elle serait retombée aux mains de ses anciens maîtres. Pendant l'arrêt, on nous donna du bouillon chaud, du bœuf, du lait pour les petits-enfants. Le bouillon nous réconforta, et le bœuf, bien que coriace, nous fit du bien. Après 1 heure d'arrêt, le train repartit pour Strasbourg, où il arriva le soir. Pendant le trajet, nous demandâmes à notre convoyeur ce que signifiaient les tombes et les maisons démolies que l'on voyait. Il nous répondit que les Français étaient venus là, et que l'on s'était battu. À partir de ce moment, il resta muet. Le train arriva à Strasbourg à nuit tombante, et je ne pus voir la cathédrale. Le convoi s'arrêta peu à Strasbourg, et traversa le Rhin sur le pont de Kehl, puis entra dans le duché de Bade. Le chaos du train finit par nous assoupir, et je ne m'éveillai qu'à Offenbourg, avec la vague impression d'avoir traversé une gare de triage. Pendant l'arrêt, on nous servit du bouillon, du café, et on nous changea de train. Le convoi reprit sa route, et je m'endormis de nouveau. Quand je m'éveillai, nous étions à Schaffhouse, en Suisse. Dès lors, nous étions libres, et le dernier Bosch nous apparut. Puis, changement d'uniforme, des soldats suisses nous apparurent et nous donnèrent des nouvelles consolantes sur notre patrie. Le train repartit, et au sorti du tunnel, je pus voir les imposantes chutes du Rhin et arriva à Zurich, où il s'arrêta. Là, une ovation nous fut faite, et je veux vous raconter les 2 heures que nous y avons passées. À la descente du train, on nous conduisit au muséum et je pus admirer les beautés extérieures, et on nous fit une généreuse distribution de vêtements et chaussures. Puis on nous mena au buffet de la gare où nous attendait un café fumant et un déjeuner consistant. Puis des demoiselles zurichoises se mirent à un devoir de laver les enfants pendant que les soldats mettaient à la disposition de tous le nécessaire pour le lavage. Cela fait, et ce ne fut pas une petite affaire, tout le monde remonta en voiture. Un soldat me donna une magnifique gerbe de lilas, tandis que des dames distribuaient des friandises et des souvenirs de la Suisse. Le train s'ébranla pendant que la foule s'écria « Vive la France !» et que nous répondions « Vive la Suisse, vive Zurich !» Le train arriva ensuite à Berne, puis à Lausanne,
où on nous donna, par la portière, quantité de cadeaux, entre autres, une paire de souliers contenant ce mot décrit. Courage, cher Français, votre patrie vaincra, vous la verrez agrandie. Un ami, X. Il était 4 heures quand nous arrivâmes à Genève. On nous conduisit dans une salle d'athlétisme, où il nous fut possible d'écrire. Nous avions à faire, pour gagner le tramway, un trajet à pied. Les soldats soulagèrent les mamans fatiguées en portant les bébés, ce qui leur allait fort bien. Le tramway démarra et arriva bientôt à Annemasse, France. À ce moment, l'enthousiasme était à son comble, et de tous les wagons vibraient les accents de la Marseillaise. À Annemasse, on nous contrôla et on nous fit souper, puis partir pour Thonon, sur le bord du Léman, d'où on voyait les neiges éternelles que j'avais remarquées de Lausanne à Genève. À Thonon, nous nous reposâmes un jour, puis partîmes pour le Midi. À partir de là, j'ai pu admirer le Beau-Rhône que j'avais longtemps suivi. J'ai pu aussi saluer les gardes-voies et les soldats français. Nous sommes passés à Vienne, Valence, où nous avons été garés pour laisser passer un rapide. Puis, de Valence, nous sommes allés à Avignon, Nîmes, puis Castres. De là, nous sommes arrivés à Vabre, par le chemin de fer départemental. Pendant cette dernière partie du voyage, j'ai pu admirer les torrents, les montagnes, et voir l'homme aux prises avec la nature, pour établir partout sa domination. Aujourd'hui, je suis heureux d'être délivré des griffes du vautour Boche, mais je n'oublierai jamais l'accueil empressé de la Suisse, aux pauvres évacués que nous sommes.
Cette composition répondait à une consigne de l'instituteur.
Récit d'un voyage en chemin de fer, observation que vous avez faite, impression, développement.
Il ne s'agit donc pas d'une expression spontanée. Et nous arrivons à un aspect important de notre sujet, le rôle de l'école dans la mobilisation des enfants et l'organisation d'une propagande de guerre. Durant la Première Guerre mondiale, l'école ne va pas chercher à préserver les enfants de la guerre, mais va au contraire utiliser les événements pour développer leur sentiment patriotique. Programmes et manuels scolaires sont mis au service de cet objectif. Tel ce livre de lecture courant, Le Tour de l'Europe pendant la guerre, paru en 1916, qui se veut être la suite d'un ouvrage peut-être plus connu, Le Tour de France par deux enfants, paru pour la première fois en 1877. Dans la préface, l'auteur G. Bruno, pseudonyme d'Augustine Fouillet, explique la nécessité de cet ouvrage.
Il nous a paru que la gravité de l'heure présente créait une obligation nouvelle envers les enfants de nos écoles. Pas un Français ne doit ignorer les causes de la guerre barbare que nous subissons. Pas un Français ne doit les oublier. Nos enfants ne sauraient les apprendre de trop bonne heure à l'école. Il faut donc qu'elles soient mises à leur portée le plus tôt possible. Nous ne pensons pas que la leçon orale suffise. Forcément, elle varie suivant le maître qui la donne et se déforme suivant l'intelligence de l'enfant qui l'écoute, si bien que peu de choses en restent 44 ans après, comme cela est arrivé pour 1870. Tant de vies héroïquement données pour défendre la patrie, tant d'autres qui se donnent chaque jour encore, ne créent-elles pas des devoirs à ceux qui restent? Ces devoirs, il est nécessaire que tous les connaissent pour n'y jamais manquer. Nos enfants doivent savoir, déjà, qu'ils vivent dans une époque différente et qu'ils doivent apporter à cette vie nouvelle un cœur nouveau. L'heure est propice pour le leur dire puisqu'ils sont placés, comme nous, au milieu de la tourmente. Tourmente qui retentit sur le monde entier et particulièrement en Europe.
Les titres des chapitres sont éloquents.
Chapitre 1. Le travail des femmes pour nos soldats. L'offrande des enfants pour la patrie.
En sous-titre.
Quand la patrie est menacée, tous, jeunes et vieux, nous devons associer nos efforts pour la défendre.
Ce premier chapitre pose le cadre d'une famille pendant la guerre. Les hommes partis se battre, certains déjà morts, d'autres prisonniers ou blessés, pendant que les anciens et les enfants sont restés à la ferme. Alors que les femmes tricotent pour les soldats, le chapitre se termine ainsi.
Monsieur Guillaume, dont les 83 ans sont encore valides, regarde avec fierté l'activité de toutes ces petites mains féminines, vieilles et jeunes. Bravo, s'est-elle écriée, les femmes de la Grande Lande sont de vraies Françaises. Et les petites filles aussi, n'est-ce pas, grand-père ? A riposté Adèle en montrant son tricot. Oui, bien sûr, les petites filles aussi. Et nous, les petits garçons, Pierre qui n'a que 6 ans et moi, nous avons donné tous les sous de notre bourse pour acheter la laine à tricoter. Nous sommes de bons Français aussi, n'est-ce pas, grand-mère ? S'écrie à son tour Jacques, l'un des jeunes fils de Jean-Joseph. Oui, mes enfants, a répondu l'aïeul. Nous faisons tous notre devoir. Nous augmentons les forces de nos chers soldats en diminuant leurs souffrances. C'est un peu comme si nous combattions avec eux. Cela nous console d'en être si loin.
Les chapitres suivants sont dans la même veine.
Chapitre 3. Pourquoi faisons-nous la guerre? L'amour de la patrie. Le bien le plus précieux d'une nation, c'est sa liberté, son honneur. Chapitre 4. la nécessité de s'instruire. Il n'est jamais trop tôt pour apprendre l'histoire de son pays, jamais trop tôt pour apprendre à l'aimer. Chapitre 9. Influence de l'éducation sur les races, les Allemands et leur culture. Le culte de la force, l'orgueil poussé jusqu'à la démence sont les indices de l'abaissement moral d'une race. Chapitre 10. Honneur, justice, paix. Jeunes écoliers qui lisez ce livre, gardez un souvenir ineffaçable du martyre que vos pères endurent à cette heure pour vous procurer le bienfait de la paix.
Le discours sous-jacent est un discours culpabilisateur à l'égard des enfants. L'idée d'une guerre faite pour les enfants est martelée par la propagande, pour les défendre, pour préparer un avenir de paix. Les enfants doivent se montrer dignes des sacrifices faits pour eux et se demander comment participer au conflit le mieux possible. Les enfants sont appelés à devenir des héros de l'arrière et du quotidien, comme l'illustre cette poésie intitulée « La lettre », extraite du carnet d'Henriette Duprat, datée de 1914.
La lettre. Il paraît, papa, qu'à Verdun là-bas, depuis plusieurs mois, bravement tu te bats, et que les régiments ne peuvent pas, malgré leurs assauts si souvent répétés, les soldats français, comme toi, papa, ne reculent jamais devant les Allemands. Petite mère le sait, mais elle dit souvent, il est au Morum, et se met à pleurer, en lisant le soir le communiqué. Quand tu recevras ces mots, mon papa, en les relisant, pense à ton petit gars, qui depuis si longtemps est privé de tes caresses, de tes baisers. Pour qu'il veille sur toi, je prie le bon Dieu qui te protégera. Du haut des grands cieux, moi, je t'embrasse, pleine d'espérance. Reviens bientôt, vive la France. Puisque tu nous dis, ne vous en faites pas, vous restez confiants pour le grand combat, mais nous t'aimons trop pour ne pas trembler, car nous savons bien qu'il y a du danger. Souvent, le matin, les yeux rougis, maman vient me voir dans mon petit lit. Moi, je la console et donne un baiser. Je lui dis, voyons, faut pas te désoler. Papa le défend, et s'il le savait, ça lui ferait de la peine, ça le découragerait. J'oublie de te dire, mon papa chéri, que j'ai fait cette nuit un rêve bien joli. Je t'ai vu chargé et dans un assaut, venger l'ennemi et lui prendre un drapeau. Alors les clairons ont sonné au champ, car un général de toi s'approchant, t'embrassa bien fort et puis sur ton cœur attacha la croix de la Légion d'honneur. En criant bravo, je me suis réveillé, ce rêve est peut-être la vérité.
Les enfants doivent se sentir pleinement intégrés à l'effort de guerre. Ils doivent tenir comme le reste de la population civile et des soldats, mais ils sont aussi sollicités en permanence pour participer à diverses collectes, par exemple. Ainsi, ce diplôme, remis aux élèves ayant participé à une campagne d'emprunt de la Défense nationale, à l'en-tête du ministère de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des inventions intéressant la Défense nationale, où figure en guise de timbre la mention « Pour la patrie » et avec la déclaration manuscrite imprimée suivante.
Quand le destin de la France est en jeu, le pays tout entier ne doit faire qu'un corps et qu'une âme. En apportant leur obole à l'emprunt, les enfants, les écoles contribuent à la victoire. Leur argent sert à armer les bras des aînés qui combattent. Paul Painlevé.
Paul Painlevé étant ministre de l'Instruction publique en octobre 1915 et ensuite donc ministre de la guerre en mars 1917. Les enfants doivent, par ailleurs, participer à l'œuvre de propagande du gouvernement pour faire accepter les mesures de restriction imposées à la population.
Paris, le 13 juin 1918. Le ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement, à Monsieur les préfets. J'ai eu l'honneur de vous envoyer, en même temps que les affiches sur les restaurants, 5 affiches exécutées par les enfants des écoles de la ville de Paris au sujet des restrictions. Les services de la préfecture de police s'occupent, en ce moment, d'en faire apposer des exemplaires à Paris, dans les boulangeries, restaurants, tramways, bureaux de poste, et d'une manière générale dans les endroits où stationne le public, afin d'illustrer en quelque sorte les prescriptions essentielles des lois et décrets sur les restrictions rappelées par les affiches officielles. Je vous prie d'examiner si dans votre département ces affiches seraient susceptibles d'exercer sur l'opinion publique une action effective de propagande, et dans l'affirmative, de me faire connaître le nombre d'exemplaires que vous estimiez nécessaire à cet effet. J'ai fait joindre à cet envoi 2 numéros de l'illustration du 18 mai où vous trouverez un article sur la coopération des enfants à l'œuvre des restrictions. Je tiens à vous rappeler à ce sujet la nécessité d'une propagande active et suivie en vue d'expliquer l'intérêt des mesures de restriction prises par le gouvernement et de les faire accepter sincèrement par l'opinion publique.
Et l'article de l'illustration dont il est question ici laisse poindre la critique.
Depuis 10 jours apparaissent sur les vitrines des boulangeries 2 affiches images d'un aspect nouveau. Les Parisiens s'arrêtent, l'œil aguiché par la fraîcheur du coloris, regardent ces dessins délicieusement naïfs, en lisant la légende qui les invite à se restreindre, puis, surpris et charmés, cherchent la signature. Mais leur curiosité se pique à voir dans un coin, ville de Paris, école communale de telle rue, X, élève. Et c'est exact. Monsieur Victor Bourré, sachant bien qu'il faut, avant de serrer l'estomac des Français, leur convaincre d'abord l'esprit ou le cœur, eut l'idée originale de mêler aux appels officiels les voix inattendues et singulièrement émouvantes des enfants.
Monsieur Bourré, donc, étant le ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement de 1917 à 1919. Le gouvernement a joué sur cette corde sensible, sur cette charge émotionnelle associée à l'image de l'enfant durant tout le conflit. L'image de l'enfant se trouve ainsi instrumentalisée. Les enfants sont largement représentés sur les cartes postales annonçant la victoire prochaine et le retour des soldats, ou encore les affiches pour les intranationaux. Ils sont aussi mis en scène pour illustrer la barbarie de l'ennemi, ainsi cette photographie, parue et décrite dans l'illustration du 3 novembre 1917 sous l'intitulé « Le mutilé en maillot ».
Le récit d'un des plus récents bombardements de Dunkerque, où, parmi tant d'autres petites victimes, un bébé de 2 jours fut atteint, avait inspiré la semaine dernière à notre collaborateur Simon une composition touchante qu'un cliché photographique non moins émouvant vient confirmer cette semaine. Ce bébé, au linge duquel on a accroché l'insigne des mutilés, il a été, nous dit-on, assez profondément blessé à la cuisse droite. Le voici aujourd'hui sur les genoux de sa mère, en présence d'une infirmière qui porte elle-même au front les traces d'une profonde blessure dans les ruines de ce pavillon de la maternité que les aviateurs allemands se sont si odieusement appliqués à bombarder.
On l'a vu donc, ces images sont vraiment récurrentes à travers tous les documents que nous venons de vous présenter, mais bon, au-delà de la propagande, les enfants ont bel et bien été les victimes de cette guerre. Plus d'un million d'entre eux ont d'ailleurs été pris en charge par l'État grâce au statut de pupille de la nation instauré par la loi du 29 juillet 1917. L'impact de la guerre sur les enfants a été tardivement étudié. Pourtant, érigés en héros dans le rôle de combattants de l'arrière, culpabilisés par les sacrifices accomplis en leur nom, confrontés quotidiennement à la brutalité, il ne fait aucun doute que ce conflit les a profondément marqués.
Merci Aude Michaud pour ces lectures, hein. C'était très intéressant. Merci Stéphanie aussi pour tout ce travail de recherche. À toutes les deux, vous avez fait vraiment un remarquable travail sur ce thème qui n'est pas souvent abordé. Je rappelle que vous êtes toutes les deux médiatrices culturelles dans le service éducatif des archives départementales du Tarn et que l'on peut retrouver ces émissions sur le site des archives départementales du Tarn. Au revoir à tous.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Histoire locale. Histoire locale, la vie quotidienne et les événements dans le Tarn au cours des siècles passés.